Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour et bienvenue pour notre méditation de ce jour. Je vous invite à lire deux passages. Le premier se trouve dans Matthieu, chapitre 26, verset 20. Alors Matthieu, chapitre 26, verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera ». Ils furent profondément attristés, chacun se mit à dire à Jésus « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit jamais né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, tu l'as dit. Alors voilà pour notre première lecture. La seconde, nous allons tourner quelques pages dans notre Bible et nous allons donc arriver à 1 Corinthiens, chapitre 11 et verset 23. C'est l'apôtre Paul qui écrit ceci, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » J'ai imaginé donner ce titre à notre réflexion aujourd'hui. Eh bien, ce titre serait le suivant « La nuit de tous les contrastes ». Alors nous avons ces paroles que nous avons saisies il y a un instant, où il est dit « Donc le soir étant venu, et un peu plus loin, dans la nuit où ?» La nuit où il s'est passé beaucoup de choses. Cette même nuit, Jésus lavera les pieds de ses compagnons, leur laissant le sublime exemple du service et de l'humilité. Toujours dans cette nuit-là, Jésus prononcera la fameuse prière sacerdotale, prière destinée à destination de ses disciples. Et cette invocation, eh bien, est celle-ci, « Sanctifie-les par ta parole ». Dieu, mon Père, sanctifie mes disciples par ta parole, parce que ta parole est la vérité. C'est également dans cette même nuit où Jésus est allé dans le jardin de Gethsémané, d'où il n'en sortira que lié et prisonnier, heures les plus douloureuses de toute sa vie. Mais Jésus va prononcer cette expression de son désir d'aller jusqu'au bout, il dira non pas « ma volonté, Père, mais la tienne ». Il y a des nuits où tout se précipite. Quelques instants suffisent pour faire basculer la lumière dans les ténèbres. Écoutons plutôt. Dans la nuit où il fut livré, c'est cette nuit-là qui a véritablement été, eh bien, là, le drame de la vie de Jésus, puisque c'était la nuit de sa mort, ou l'avant-veille, finalement, la veille de sa mort. Les événements se précipitent. Une foule vociférante, armée d'épées et de bâtons, se présente dans le jardin de Gethsémané. Et puis il y a le baiser de la trahison, et au petit matin, traîné chez Caïphe pour y recevoir l'accusation. Et Caïphe, eh bien, enverra Jésus à Hérode. Hérode enverra Jésus à Pilate, et Pilate enverra, sous la pression de la foule, à la croix. Il fait alors grand jour. On pourrait peut-être paraphraser avec ce que nous connaissons d'un titre d'un film fameux, le jour le plus long, mais le jour le plus long pour Jésus. Il y eut des ténèbres sur toute la terre, nous dit, eh bien, un autre passage de l'Évangile. Ce qui importe au-delà de la valeur historique des faits, c'est le contraste qui s'en dégage. Trahison au moment où Jésus célèbre la nouvelle Pâque. Il y a le forfait honteux de Judas qui vend Jésus et Jésus qui offre à Judas, eh bien, sa vie sans résistance pour le salut de cet homme et des hommes du monde entier, et à saisir naturellement et bien par la foi, parce que le pivot de tout cela, c'est tout simplement croire ou ne pas croire. Contraste toujours, Judas est à la même table que Jésus et les autres disciples, et il est impatient d'en finir. Jésus, lui, dans le calme, est dans l'attente de l'heure fatale. À cette même table se déchaîne, là autour de cet endroit, la haine et l'envie. Et d'un autre côté, c'est le pardon et le salut. En toile de fond, apparaît le sombre Judas et ses œuvres. Sur le devant, Jésus rayonnant d'une lumière, avant-coureur de la gloire. Cette fameuse nuit fait ressortir le pardon et le péché. Depuis longtemps, Judas avait dû méditer sur ce qu'il ferait, et son intention trouve son couronnement dans son baiser criminel. Il n'y a rien de plus horrible que de faire croire à l'amitié à quelqu'un pour mieux le tromper. Dans cette dernière nuit, Jésus a tout su et a tout vu de ce que les autres ne voyaient pas et ne pouvaient pas percevoir encore. Chez Judas, Jésus observa les derniers développements du mal, son agitation fiévreuse, son regard envieux. Il entendit de la bouche même de Judas la parole de la trahison et de l'hypocrisie monstrueuse. Quand Judas dira « Est-ce moi, Rabbi ?» Tout ce que le péché comporte d'horreur, d'abject et de criminel était là. Pourtant, Jésus aurait pu se détourner, dénoncer Judas, le confondre. Par contre, il a laissé faire, c'est le triomphe de la grâce sur le mal, le triomphe de la miséricorde sur le péché. Incompréhensible que ce silence, et pourtant, c'est ce que Dieu fait souvent avec les hommes que nous sommes. Au lieu de le foudroyer par sa justice toute-puissante, Jésus laisse le pécheur suivre sa voie, ses pensées, son cœur, jusqu'à l'ultime instant dans l'espoir qu'il reconnaîtra sa folie et s'en repentira, bien entendu. Judas n'a pas su s'arrêter à temps. La grâce et le pardon ne sont jamais apparues aussi lumineuses que dans les nuits les plus sombres de la dépravation des hommes. Quelques exemples. C'est au soir du premier jour de la grande trahison, lorsqu'Adam a désobéi à son Créateur, que Dieu appelle le rebelle pour le sauver du gouffre qu'il vient d'ouvrir. « Adam, où es-tu? Pourquoi te caches-tu ? » Interpellation naturellement pour éveiller chez l'homme. Là, une sorte de culpabilité salvatrice. Également, c'est pendant la nuit qu'à Sodome se déchaînent toutes les passions infâmes et où plane dans les cieux la destruction que les anges sauveurs de Lot franchissent les portes de la ville maudite. C'est toujours pendant la nuit où Israël sortit d'Égypte, murmurant contre Dieu, que Dieu accomplit la merveilleuse délivrance de la mer Rouge. Quelques nuits auparavant, l'Égypte s'écroulait dans la mort, Israël était protégé et libéré. C'est naturellement, le phénomène extraordinaire de la Pâque, contraste, lumière, ténèbres, vie ou la mort, vie et mort. À chaque fois que les ténèbres du péché se sont appesanties, Dieu a toujours répondu, en dépit de sa justice et de sa sainteté, par un redoublement de grâce et de pardon. Et c'est naturellement dans l'Évangile où il est écrit ceci, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Nous n'avons pas affaire à un Dieu qui se refuse, mais un Dieu qui vient et qui est là prêt à ouvrir son cœur et ses mains pour nous apporter le salut. Contraste encore, cette nuit met en évidence aussi la fidélité face à la trahison. Devant la perspective de la gloire prochaine et de la victoire éclatante que Jésus va remporter sur le prince des ténèbres, Jésus est dans la joie qui est la mienne est parfaite, en perspective de savoir que lorsqu'il a demandé à Dieu de le délivrer, de le sauver, pour le salut des hommes, Dieu va l'accomplir. Et c'est pourquoi il peut dire « mais la joie qui est la mienne est parfaite ». Alors aussitôt, une vive douleur, eh bien là, le transperce, et cette douleur venait tout simplement de cette souffrance, c'était la trahison de Judas. « Voici, mon âme est troublée. » D'un côté, il parle de joie, et d'un autre côté, il parle de trouble. La trahison est une souffrance des plus cruelles. C'est de tous les crimes le plus exécré et le plus difficile à pardonner. Avoir donné sa confiance et se voir bafoué, se voir abandonné, se voir trahi, se voir infliger une immense infidélité, et c'est ce que l'on appelle la félonie. La déloyauté est cher payée chez les soldats, parmi les militaires naturellement, alors on dégrade l'officier ou le soldat, on le condamne à mourir les yeux bandés face au mur, et puis il est jeté dans une fosse anonyme. Voilà comment on traite la déloyauté et la félonie. À côté de la bassesse de Judas resplendit, en opposition, l'admirable fidélité de Christ. Jésus aimait Judas, et il l'avait choisi, on se souvient. Il lui avait confié une place importante. Il avait partagé aux côtés de Jésus eh bien, son intimité. Et cette trahison-là est la plus terrible. C'eût été la trahison d'un inconnu ou d'un adversaire, d'un ennemi. Eh bien, ça peut passer. Mais celle d'un ami, c'est quelque chose d'insupportable. Nous avons deux textes dans le psaume 41 et 55, il est dit celui-là même avec qui j'étais en paix, qui était mon ami, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Dans le psaume 55, il est dit « Mais c'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. » Donc nous faisons peut-être parfois l'expérience de la trahison de nos amis. C'est quelque chose qui est très difficile à vivre. En dépit de cela, Jésus est resté fidèle. Pourquoi mourir et pourquoi allait-il mourir pour les hommes et d'une si monstrueuse ingratitude? Alors sans murmure, sans colère, sans amertume, Jésus continue son chemin, celui-là même, et bien là en effet qui a été ouvert par la trahison qui le conduit à la croix. Si nous sommes infidèles, nous dit la parole de Dieu, Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et nous pouvons compter, quelle que soit notre vie, notre passé, notre histoire, quel que soit ce que nous avons fait, nous savons que Dieu demeurera fidèle jusqu'au bout, dans la mesure où bien naturellement. Nous revenons à lui, nous sommes tous des fils prodigues, et qu'à ce moment-là, nous pouvons compter sur sa grâce indéfectible. Enfin, cette nuit de tous les contrastes met en relief l'amour. Face à la haine, l'amour, le trait le plus lumineux de la personne de Jésus. L'arme invincible de toutes les victoires sur le mal. Peut-on résister à l'amour? Là où la violence, les contraintes, les menaces, la froideur, le dédain, le mépris s'avèrent impuissants pour affaiblir l'amour. Celui-ci désarme sûrement. Et c'est dans le livre des Cantiques des Cantiques que nous avons cette belle parole qui nous inspire. Il nous est dit que l'amour est plus fort que la mort. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Jésus, probablement, ne fit jamais autant d'efforts pour délier Judas de son péché. On peut imaginer que chacune des paroles de Jésus, chaque geste, chaque regard de Jésus vers Judas ont été autant d'appels et de garde-fous pour arrêter le disciple traître dans la voie du crime. Hélas, tout ce déploiement admirable d'amour a été repoussé par une haine aveugle, obstinée, rancunière. La rancune, mais pourquoi ? Parce que quel mal, et nous pouvons nous poser la question légitimement, mais quel mal Jésus avait-il fait? Quel mal Jésus avait-il fait à Judas? Quel mal Jésus avait-il fait d'une manière ou d'une autre parmi les hommes? Aucun. La haine ne s'explique pas et ne s'expliquera jamais. Parce qu'elle est là, elle a des racines de jalousie, de déception, de crainte, de peur. C'est un sentiment de pure folie qui a ses racines dans la mort, qui tue autant celui qui est que celui qui est haï. Et puis, toujours parlant de la même chose, c'est un sentiment sorti tout droit de l'enfer vers lequel se précipite Judas. Cette nuit-là, autour de cette table-là, Jésus réunit là pour la dernière fois avant de mourir ses disciples. Rien n'évoque mieux le partage et la communion humaine qu'une table dressée. C'est ce que nous avons lu en préambule. Il y a longtemps, David disait « Tu dresses devant moi une table et ma coupe déborde. C'est toi qui me délivres de mes ennemis. C'est toi qui m'affranchis finalement de la haine. Celle que ce soir-là Jésus offrait était remplie de la grâce triomphant du péché, de sa fidélité, de son, sa démarche indéfectible, vainquant la trahison, de son amour, balayant la haine, toutes les haines. Et c'est pour cela que Jésus donnera cette dernière parole à la croix avant d'expirer. Il dira « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. » Et sachant qu'aujourd'hui, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous sommes pardonnés si nous demandons pardon à Dieu. Judas n'a pas voulu le comprendre. Il a préféré rester dans la nuit que de venir à la lumière. L'évangile proposé est comme une table. Et table évoque l'image du festin, du repas fraternel, du repas amical, familial, sur lequel Dieu a tout mis à notre disposition. Il y a des paraboles où il est parlé finalement de festin, il est parlé de fête, où il nous est dit que Dieu a tout préparé, qu'il nous a adressé une invitation à s'asseoir, à vivre et à se rapprocher de Jésus. Mais attention, dernière information que je laisse à votre réflexion, si nous venons à ce souper, à l'exemple de Judas, de la manière et dans l'état d'esprit dont Judas est venu à ce souper, prenons garde à cause d'un péché secret. Quelque chose que nous avons au fond du cœur, quelque chose que nous avons caressé, que nous caressons encore, et que nous voulons garder à tout prix. De passer finalement par la bonne porte, et de refuser de passer par la bonne porte qui est la repentance, et de transformer la porte étroite de l'évangile en porte fermée. Le plus grave péché qui soit serait de persister dans les désirs de notre cœur mauvais et de mettre la main dans le plat hypocritement pour y prendre notre condamnation par incrédulité, par rébellion et notre endurcissement. Et nous avons cette ultime parole dans le livre des Hébreux, dans l'Évangile. Il nous est dit, mais si aujourd'hui vous entendez sa voix, si vous entendez la voix de Dieu, si vous sentez que dans votre conscience, dans votre cœur, dans votre pensée, dans votre esprit, dans votre âme, au plus profond de votre âme, vous entendez la voix de Dieu, ne soyez pas un Judas. Ne soyez pas comme Judas. Ne soyez pas de ceux qui refusent envers et contre nous. Mais si aujourd'hui vous entendez sa voix, adressez-vous à Dieu et ouvrez tout grand votre cœur. Parce que comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Alors que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous encourage, qu'il nous instruise par son esprit, venant souligner cette parole de l'évangile, cette parole, ce message, et qu'ainsi, nous puissions véritablement lui répondre oui, afin que de cette porte que, nous ne la gardions pas fermée, mais qu'elle s'ouvre pour notre salut présent et pour notre avenir éternel. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, et gardez cette parole, entendez l'appel du Seigneur, et puissiez-vous y répondre rapidement, le plus rapidement possible. Merci, que Dieu nous donne sa grâce.